Bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Alors mélanger classique, reggae, techno, baroque, accordéon, valse, punk, heavy metal, folk, jazz, électro, chanson, grégorien, vous obtiendrez le mix quotidien, enfin j'espère en tout cas, d'Estivalitude. Estivalitude, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci,
c'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera.
Formidable.
Guillaume Niclou, vous êtes un drôle de zig, en tout cas un drôle de cinéaste. Vous ciselez une œuvre inclassable dans laquelle vous dévoilez la vérité crue des êtres en faisant exploser l'armure de la bienséance. Votre dernier film, Thalasso, qui sort demain, mercredi, l'atteste. Bonjour Guillaume Niclou.
Bonjour.
Bruno de Cessol, vous êtes journaliste et écrivain. Dans votre dernier livre, L'île du dernier homme, à paraître demain, mercredi, votre héros devient justement une cible parce qu'il cherche la vérité des êtres sur lesquels il enquête. Bonjour Bruno de Cessol.
Bonjour Christophe.
Vous me suivez ? Mes invités ce matin, Guillaume Niclou et Bruno de Cessol, ont un point commun. Ils sont trop honnêtes pour être polis. Magnéto Juliette.
Estivalitude.
Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord ?
Ça veut rien dire.
Christophe Bourseiller, sur France Inter.
Bruno de Cessol, vous avez déjà vu des films de Guillaume Niclou ?
Alors, comme je vis là en partie à la campagne et que je n'ai pas Internet, j'ai regardé l'autre jour, mais j'ai vu les bandes annonces de ces films qui m'ont beaucoup donné envie de les voir, notamment L'enlèvement de Michel Houellebecq, puisque j'ai beaucoup écrit sur Houellebecq à une époque. Et donc, je suis très curieux de voir le nouveau film, en plus avec Depardieu, ce qui rencontre
tout à fait
improbable.
Vous savez qu'il en a fait beaucoup.
Oui,
vous savez qu'il a fait beaucoup de films, Les Enfants Volants, Faut pas rire du bonheur, Le Concile de Pierre, alors L'enlèvement, bien sûr. Les Confins du Monde, enfin, il y en a eu plein. Il y a toute une œuvre. Guillaume Niclou, vous aviez entendu parler de Bruno de Cessol ?
Non.
Pas du tout.
Mais je ne connais pas beaucoup de monde. Donc, c'est pas très étonnant. Mais j'ai découvert avec plaisir le sujet de son dernier roman. Et j'ai hâte de lire, parce que ça m'intéresse beaucoup.
On va en parler dans quelques instants. Moi, j'ai l'impression que votre point commun à tous les deux, c'est une très forte indépendance d'esprit. En tout cas, Guillaume Niclou, votre dernier film, Thalasso, faut ne pas confondre avec Thalassa, bien évidemment. Thalasso, c'est un peu la suite de L'enlèvement. Il faut nous expliquer le lien entre les deux films.
Le lien évident, c'est en premier Michel Houellebecq.
Oui,
puisque
c'est ça. Qui est l'acteur principal, pourrait dire.
J'avais proposé à Michel d'interpréter son premier rôle dans L'Affaire Gorgi, qui est un film politique
dont on parlera,
Canal+. Et puis ensuite, très rapidement, l'envie a été de faire un film avec Michel, mais qui aurait le parti pris de proposer aux spectateurs de découvrir Michel, c'est-à-dire ses propres réactions, lui-même, à l'intérieur d'un alibi fictionnel. Comme si c'était un documentaire inversé dans lequel Michel allait avoir le loisir d'être finalement beaucoup plus lui-même que si on était passé par le filtre de l'interview traditionnelle.
De sorte que c'est une sorte de double interview, puisque Michel donc fait une thalasso à Cabourg, j'adore le prétexte, et dans le cadre de cette thalasso, qu'est-ce qu'il croise en peignoir comme lui ? Gérard Depardieu.
Qui lui est un habitué des thalasso.
Ah bon ?
Et donc
bon.
Du coup c'était de fabriquer cette rencontre improbable d'une certaine façon, entre deux icônes à la fois médiatiques et à la fois qui sont chacun les représentants de la littérature mondiale française pour Michel et puis de l'actorat et puis du cinéma pour Gérard Depardieu. Et comme si les deux représentaient les deux faces opposées d'une même médaille pour moi et que le rassemblement de ces deux personnages formait presque à eux deux un troisième personnage.
Alors écoutons la bande-annonce de Thalasso.
Réveillez-vous, monsieur. Je viens vous chercher pour votre soin. Vous avez la cryothérapie, là, ce matin.
Il n'y a pas de risque que les ongles se détachent ?
Du tout. C'est hyper dangereux, surtout que t'es pas épais, toi.
Ah !
Tu peux geler, ton os peut geler. Les couilles, t'as, c'est pareil.
Ça sent, ma femme a demandé pour la bite.
Aïe ! Mais
pour ça brûle, ça pique.
Non, du tout.
Mais ils connaissent rien. C'est des mecs qui sont au chômage, qui viennent là, qui prennent 2-3 cours de formation, et puis qui te brûlent la bite.
Bon, on a compris le style de film que c'était. Alors, il y a quand même, moi, ce qui m'interroge, c'est que les deux personnages, les deux icônes que vous choisissez, sont quand même des icônes qui n'ont rien de consensuel. C'est-à-dire, c'est vraiment deux personnages controversés, aussi bien Houellebecq que Depardieu, finalement. C'est exprès.
Bah, c'est, j'ai l'impression que les pôles s'attirent en même temps. C'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est que finalement, pourquoi aujourd'hui ces deux personnes qui ont, à mon sens, eu la parole la plus libre, ont décidé de se taire? On peut se poser la question. C'est-à-dire que j'ai rarement, moi, entendu... Je ne parle pas de nos rapports en privé, où là, on a une parole totalement libérée. On peut parler de tout sans crainte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les médias, on s'aperçoit que certaines personnes ont tendance à se museler et finalement à ne plus donner réellement leur avis. Et lorsqu'on a deux personnages comme Michel et Gérard, ce qui est quand même assez jubilatoire, par le biais du média qu'est le cinéma, c'est de leur faire dire ce qu'ils pensent vraiment, à l'intérieur d'une fiction, et surtout de donner un éclairage plus nourrissant que simplement la saillie verbale qui souvent était extraite par certains médias de façon à créer comme ça des appels, des petites bouffées d'excitation. Là, ils ont l'occasion de dire pourquoi ils disent certaines choses avant et après. Donc, de donner peut-être plus de sens, plus d'humanité à certaines paroles qui peuvent paraître parfois exagérées ou très singulières. C'est de leur redonner cette vérité qu'on a rarement l'occasion de voir aujourd'hui dans certains médias.
Alors moi, j'ai eu quelques petites bouffées d'excitation, effectivement, notamment quand Michel Houellebecq dit « La Suède est le pays le moins démocratique du monde ». Oui. Alors, Gérard Depardieu dit « En Thalassou, on a la bite qui gèle ». Donc ça, on l'a entendu dans la bande-annonce. Il a aussi une phrase de Depardieu « Le plus grand problème des coureurs cyclistes, c'est les hémorroïdes ». Vous êtes d'accord, Bruno de Cessol?
Je n'ai pas assez pratiqué le vélo pour donner un avis avisé sur la question, mais j'ai été cavalier, donc les cavaliers, comme les coureurs cyclistes, sont aussi sujets aux hémorroïdes, donc je peux confirmer que c'est probablement vraisemblable.
Alors, en thalasso, donc on a peut-être la bite qui gèle, mais on a la langue qui se délie. Or, vos deux acteurs, c'est vrai, n'ont pas la langue dans leur poche. Guillaume Nicloux, écoutez.
On n'a pas de devoir par rapport à son pays, ça n'existe pas, faut le dire aux gens. Ça n'existe pas.
La politique en général ne m'intéresse pas.
La France est un hôtel, pas plus.
Moi j'ai mes périodes de connard total que je revendique et que j'assume.
Bernard-Henri Lévy, mobilette intellectuelle. Vous avez comme ça des flèches, hein?
Je les envoie pas. Il se l'envoie lui-même.
Oui, ça m'a embêté de pas me faire Bérou. Je trouve vraiment drôle, Bérou.
Il est très français, Dominique Strauss-Kahn, pour vous? Pourquoi?
Très, très. Il est arrogant, il est suffisant, il est...
Pour moi, Gérard Depardieu, une grande consolation dans la vie. Parce que quand je fais un truc, bon, qui va pas, je me dis de toute façon, oh, Depardieu a fait pire.
Alors vous dites, Guillaume Nicloux, à propos de Houellebecq et Depardieu, ce sont peut-être les figures médiatiques dont la parole publique a été la plus libre, la plus provocante, la plus subversive, la plus débridée, mais c'est aussi, notamment dans le cas de Depardieu, quelqu'un qui a largement dérapé à plusieurs reprises.
Oui, mais je crois que c'est ce qui rend les gens finalement humains, c'est de pouvoir s'abandonner dans une parole, et qu'on sait que les mots ne sont pas des actes, et que finalement, quel est le plus important lorsque deux personnes se parlent? C'est pas l'unanimité, c'est le débat. Et pour qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait des oppositions. Il faut que la parole soit libérée. Donc on peut ne pas être d'accord, mais c'est l'échange qui participe à la vivacité, à l'esprit de liberté. C'est ça, en fait, la discussion.
Alors c'est vrai que Michel Houellebecq, interrogé sur des sujets liés à la politique, disait toujours « N'oubliez pas que je suis un romancier. Je ne vais pas vous répondre en tant que journaliste, je ne vais pas vous répondre en tant que philosophe. » Enfin, il y a eu quelques... Vous nous racontez dans votre livre, dans votre film, pardon, que Houellebecq veut se présenter aux élections, qu'il a le projet de se présenter aux élections, et il va d'ailleurs consulter une jeune voyante.
Oui, oui.
Bah, c'est vrai qu'il veut se présenter aux élections, Houellebecq?
J'ai, à un moment donné... je lui ai proposé, en effet, de se présenter aux élections. On a pendant quelques jours...
Les présidentielles?
Oui, aux présidentielles. D'accord, oui, d'accord. On a pendant quelques jours... Alors, c'est vrai que l'idée était tellement incongrue qu'il y a réfléchi pendant plusieurs jours. Mais de toute façon, il n'a jamais suivi mes conseils. Même quand il m'a demandé s'il devait accepter la Légion d'honneur, je lui ai dit non, il l'a fait quand même. Donc de toute façon, je savais dès le départ qu'en lui demandant de se présenter, il allait pas le faire. Mais il a quand même réfléchi 2-3 jours.
Moi, je pense que ça serait une assez bonne idée.
Hein, ce qui était drôle, c'est qu'on a commencé à faire le gouvernement quand même.
Donc, ah oui, quand même.
On avait commencé
à placer
des noms.
Vous mettez qui?
À la culture, bah, je me suis imposé.
Ah oui,
donc,
bah, c'est
pas toi. Il voulait me donner l'agriculture. Il me disait, mais c'est
ce un peu la même chose.
Oui, mais pour lui, c'était ce qui était le plus important, puisqu'il a fait agro. Donc pour lui, c'était vraiment un remerciement de me le proposer. Alors, j'ai refusé l'agriculture.
Il y a une très belle phrase de Houellebecq, je trouve, c'est « Le drame quand tu vieillis, c'est que tu restes jeune ». Je trouve que c'est beau, cette phrase.
Oui, c'est une phrase de Julien Gracq.
Elle est très belle, cette phrase de Julien Gracq. Mais Julien Gracq, c'est toujours beau ce qu'il dit. Alors, ceci vous concerne directement, Guillaume Niclou, écoutez bien, c'est Gérard Depardieu qui reprend une célèbre chanson de Barbara, « Göttingen ».
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen, pas de quais et pas de rengaines qui se lamentent et qui se traînent, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans. À Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. À Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mon Dieu, que les roses sont belles! À Göttingen, nous avons nos matins blêmes, et l'âme grise de Verlaine, eux, c'est la mélancolie même. À Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là, à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent, et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne reviennent le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, la 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 la. C'est bien joli tout de même, c'est bien joli tout de même à Göttingen. Mon cœur verserait une larme pour Göttingen.
Inter. Estivalitude, Christophe Bourseiller.
Gérard Depardieu, accompagné par le pianiste Gérard Daguerre, interprétait Göttingen de Barbara. Alors, Bruno de Cessol, le personnage principal de votre roman, L'île du dernier homme, se nomme François Saint-Réal. Alors, c'est un journaliste spécialisé dans le djihadisme. Et alors, on peut se poser la question, est-ce que, selon vous, votre héros de ce livre, de ce roman de la rentrée, est-ce que votre héros est un idiot utile ou un homme honnête?
Alors... on peut être les deux. On peut être un homme honnête et un idiot utile. C'est un homme honnête et probe, je pense, qui cherche la vérité. Mais à force d'une, il est aussi doté d'une certaine naïveté, d'une certaine candeur, ce qui va l'amener effectivement à commettre des erreurs et à dépasser peut-être le rôle qu'il s'était fixé au départ.
Vous connaissez la phrase d'Hubert Beuve-Méry, il n'y a pas de journaliste objectif, il n'y a que des journalistes honnêtes, fondateur du Monde, Hubert Beuve-Méry. Mais le problème quand on est honnête, Bruno de Cessol, Guillaume Niclou, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est que, c'est un peu le cas d'ailleurs de Houellebecq ou de gens comme ça, c'est que on n'est pas manichéen quand on est honnête. C'est ça. Et quand on n'est pas manichéen, eh ben, on a des ennuis parce qu'aujourd'hui, et là vous faites le procès du journalisme dans votre livre, la presse veut des bons et des méchants. Vous dites la presse aujourd'hui, c'est du marketing éditorial.
C'est une phrase que m'avait sortie effectivement un directeur de la rédaction sous lequel j'ai travaillé il y a quelques années de cela et qui m'avait profondément révulsé, oui, en disant Coco, aujourd'hui la presse, tu comprends, c'est du marketing éditorial, tu fournis au client la cam qu'il veut et tu le gardes 20 ans. Voilà. Et malheureusement, une bonne partie aujourd'hui de la presse s'est totalement aversée de ce côté-là. Et on constate qu'il y a effectivement, d'un côté, le monde est gris et blanc et noir. Or, le monde est gris pour moi. Il n'est pas blanc et noir. Et aujourd'hui, on voit effectivement, mais dans la presse, des caricatures, en fait. On classe les gens selon des étiquettes bien précises et bien définies. Et de là, on les en sort pas. Donc, il n'y a plus... Or, la vie, pour moi, c'est l'ambiguïté, c'est les incertitudes, c'est cette marge grise entre le blanc et le noir. Alors, et ça, on ne le trouve plus.
Il faut expliquer que votre personnage, donc, c'est François Saint-Réal, c'est un journaliste très indépendant. Et alors, il lui arrive un truc épouvantable, c'est que donc, il étudie, il observe les djihadistes, donc des gens très dangereux. Et donc, du coup, bah, il va les rencontrer, il va en Syrie, il va un peu partout pour discuter avec des djihadistes. Et en fait, il est si indépendant d'esprit qu'il devient la cible de services secrets anglais qui le soupçonnent de complicité avec les djihadistes. Et c'est le début d'un engrenage infernal.
Oui, en fait, en véritable journaliste, François Saint-Réal a une faculté d'empathie avec les gens. C'est-à-dire qu'il rencontre les gens, il sympathise avec eux et il sait les faire écouter. Et se faire écouter par eux et les faire parler surtout. Et à force de discuter et de parler avec des islamistes radicaux, voire des djihadistes, il éprouve pour eux une certaine sympathie pour leur engagement, sinon pour leur action. Et cela va l'amener à commettre effectivement des actes qui vont l'entraîner dans un engrenage fatal.
Un engrenage absolument fatal. Vous voyez, c'est un peu Guillaume Niclouche, sauf qu'il y a des points communs avec votre travail. C'est que c'est un honnête homme qui est condamné par un système fondamentalement manichéen. Vous en pensez quoi ?
Bah, je pense surtout que je ne sais pas trop ce que veut dire honnêteté, dans la mesure où, pour moi, ça résonne simplement avec une chose, c'est la faculté à être le plus juste possible au moment où on donne son avis. Mais ça n'exclut pas ni la contradiction, ni le paradoxe. C'est ce qui fait la richesse, en fait, de l'esprit humain, c'est de pouvoir, à un moment donné, ne plus être d'accord avec ce qu'on a dit il y a une heure. Parce qu'on ne réagit plus de la même manière, parce que la personne en face de nous nous a nourri d'un autre avis qui a modifié le nôtre. Voilà, c'est cette faculté à pouvoir, à s'accepter le droit de changer. En fait.
Un journaliste pris au piège de sa déontologie, ça me fait penser au scandale suscité en 2015 par le documentaire salafiste de François Margolin. François Margolin et Lemine Ould Mohamed Salem avaient voulu donner la parole à des djihadistes pour exposer leur dangerosité, mais ils ont été accusés d'apologie du terrorisme. J'aimerais bien qu'on écoute leur réaction à l'époque. Ils étaient interviewés le 26 janvier 2016 sur France Inter par Léa Salamé.
Je suis mais plus que scandalisé qu'on nous accuse de ça, parce qu'on a risqué notre vie pour y aller, on a failli se faire tuer par les gens qu'on interviewait, et considérer qu'on est en gros le service de com des djihadistes, c'est tout même hallucinant.
Le fait qu'ils nous acceptent, c'est parce qu'ils avaient envie aussi de parler, de montrer certaines choses au monde entier. Et ils savaient très bien que je venais de France. Donc je suis parti, bien sûr, avec l'idée d'éviter justement la manipulation. Et je pense aussi qu'ils le savaient. D'où le fait que mes questions étaient bien réfléchies à l'avance. On avait convenu les questions ensemble, François et moi. Et les mêmes questions étaient posées à tout le monde. Et quand je suis rentré, notre souci aussi pendant tout le montage, c'est justement d'éviter de tomber dans le piège de la manipulation.
Le piège de la manipulation, c'est ce qui arrive à votre personnage dans L'île du dernier homme.
Il est totalement, oui. Lui ne se rend pas compte qu'il est. Il poursuit sa quête de vérité. Il veut essayer de comprendre pourquoi des jeunes Français se convertissent à l'islam et au djihadisme radical, et pourquoi certains s'engagent pour aller combattre en Syrie aux côtés de Daesh. Et ce faisant, bon, il rencontre trois djihadistes français
dans la banlieue
de Attrape, effectivement, la banlieue qui a fourni avec Lunel le plus grand nombre de djihadistes en Syrie. Et ces garçons, il va les retrouver quelques mois plus tard à Alep. Alep en guerre, l'un d'eux est prisonnier, il va l'interviewer. Et en fait, lui est assez naïf et il ne pensait pas effectivement que leur véritable conviction religieuse allait les emmener à de tels excès.
Voilà. Donc il y a aussi la naïveté dont vous parlez.
Il y a la naïveté, mais je pense que quand on est relativement probe, on ne peut pas s'empêcher d'être naïf. Lui fait confiance aux gens, quitte, comme il fait confiance à l'imam d'Alep qui lui confie un Coran qui, d'après lui, ne contient que des souvenirs de martyrs à remettre à leur famille en France. Et il ne soupçonne pas que ça peut être un piège, une manipulation, et que ce Coran contient autre chose que des souvenirs.
C'est un Coran piégé. C'est un Coran piégé.
C'est un Coran piégé, absolument. Bah oui.
Ouais. Vous savez que Bruno Sessol, vous n'aimez pas beaucoup la France de 2019. Je vous le dis dans votre livre, la France du 21e siècle dérive au fil de l'histoire comme le chien crevé au fil de l'eau. C'est pas gentil.
Non, mais malheureusement, c'est le sentiment que j'éprouve, et je pense que je ne suis pas le seul à le. Je pense que la France survit à elle-même. L'histoire de mon personnage, c'est qu'en fait, comment quelqu'un peut ne plus se reconnaître chez soi dans son propre pays. Voilà. Et François Saint-Réal ne se reconnaît plus dans la France de... L'action se passe en 2014, voilà. Ne se reconnaît plus dans la France de ces années-là, parce qu'il lui semble avoir trahi son idéal, avoir trahi son identité. Et c'est la raison pour laquelle il va s'intéresser aux islamistes radicaux qui
refusent finalement, ils ont une sincérité que nous n'avons plus.
Oui. Oui.
C'est curieux. Hein. Vous dites à propos de Paris que certains touristes japonais sont tellement déçus par Paris qu'ils finissent en hôpital psychiatrique. Vous saviez ça, Guillaume Niclou?
Non.
Il y a un service, il paraît. Alors Juliette Medevielle m'affirme qu'il y a un service à Sainte-Anne, à Paris, donc pour les touristes japonais déçus.
C'est formidable.
Vous devriez tourner là.
Oui, tout de suite, moi, ça me donne envie d'y aller avec une caméra, évidemment.
Évidemment. I tend to change my head too much. It has become my ruination. My friend, she keeps on warning much for financial decapitation. On top of that, it's true, I see. People never recognize me. On top of that, she's right, I see. Ain't got no style. I'm nobody. I'm nobody. I'm nobody. I'm nobody. I'm nobody. I'm nobody.
Saying
C'était Charlotte Adigéry, Highlights. Il faut savoir que Charlotte Adigéry est originaire de Gand en Belgique, mais qu'elle descend de la célèbre tribu Yoruba du Nigeria.
Estivalitude sur France Inter.
Mes invités ce matin sont Bruno de Cessol et Guillaume Niclou. Guillaume Niclou, alors je sais que vous avez une question, je vous ai demandé de réfléchir à une question pour Bruno de Cessol. Quelle est cette question ? Vous vous souvenez ou pas ?
Oui, bon. Oui. Alors c'est une question, mais c'est une double question, parce que finalement, la première réponse qui viendrait doit être désamorcée par la seconde, mais qui est la même.
Ah, c'est complexe.
C'est-à-dire, en fait, qui êtes-vous Bruno ? Mais qui êtes-vous vraiment ?
Mais je pense que je ne le sais pas moi-même. Et je pense qu'on ne sait jamais qui l'on est. Vous disiez tout à l'heure qu'on peut être, avoir des moments de différents, de sincérité différente. Je pense aux sincérités successives. Et je pense qu'un être humain ne connaît jamais la vérité sur lui-même, parce qu'il est éternellement changeant. On n'est plus le même que celui qu'on était il y a un quart d'heure et celui qu'on sera dans une demi-heure. Donc la vérité, elle n'est pas fixe, elle n'est pas fixée. Et je ne suis pas non plus très très porté sur l'introspection. J'essaye d'éviter cela. Donc je pense que seuls les autres peuvent dire qui je suis et à un moment précis du temps. Voilà.
Moi, j'ai envie de vous poser la même question, Guillaume Niclou, parce que vous avez dit il y a quelque temps, mes premiers films étaient hypocrites. Et aujourd'hui, je ne suis plus hypocrite, disiez-vous. Alors, qui est vraiment Guillaume Niclou ?
La preuve, c'est que je ne me souviens pas avoir dit ça, donc c'est un autre moi. Hein, donc c'est un autre moi, et je suis tout à fait d'accord avec Bruno, c'est-à-dire que nous sommes plusieurs à l'intérieur de nous-mêmes, et s'accorder cette possibilité, c'est évidemment élargir notre richesse, je pense, notre tolérance et notre bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes, ce qui est quand même le plus important.
Mais vous avez dit au départ, en fait, au début de ma carrière, je me cantonnais dans des films de genre, je me réfugiais derrière les films de genre, et aujourd'hui, je ne veux plus, je veux sortir du genre.
Non.
Vous avez dit
non,
ça Christophe, en substance, je résume.
Oui,
je résume.
Oui, mais bon, on sait bien que résumer, souvent, c'est trahir.
Ah, c'est trahir.
Donc,
sûr,
évidemment, c'est difficile de rebondir là-dessus.
Bah, je vous comprends.
Non, je pense que si on veut schématiser un peu, il y a eu des périodes, il y a différentes périodes, il y a différents cycles. Et que le cycle dans lequel je suis aujourd'hui est évidemment assez éloigné du film de genre dans lequel je me suis intéressé pendant une dizaine d'années.
Bruno de Cessol, vous avez une question pour Guillaume Niclou. Quelle est cette question ?
Justement, je rebondis sur ce que vient de dire Guillaume. Est-ce que pour vous, le cinéma, comme le roman, a un rôle de dévoilement de la vérité ? Est-ce qu'il a pour fonction de passer de l'autre côté du miroir et de révéler les rouages cachés de la société dans laquelle on vit ?
Je ne sais pas si...
C'est philosophique, là.
Oui, mais je ne sais pas si ça va aussi loin. Mais j'aimerais croire que ça produit presque l'inverse et que c'est une projection sur nous-mêmes qu'on nous donne. Parce que c'est vrai que certains romans ou certains films, je prends l'exemple de certains films, on a l'impression qu'on regarde un film, mais souvent le film vous regarde. Et c'est ce qu'il déclenche en nous, au même titre que la lecture d'un livre, qui produit cet effet. Et de quelle façon nous sortons enrichis, modifiés, des émotions que l'on a perçues. Voilà, c'est ça ce qui est le plus important. Alors je ne parle pas de vérité, je parle simplement de justesse par rapport à ce qu'on ressent. C'est-à-dire à quel moment on se sent le plus juste par rapport aux émotions qui nous transportent.
Guillaume Niclou, votre actualité est double. Il y a bien sûr le film Thalasso qui sort demain sur les écrans. Et puis il y a une série stratosphérique, Il était une seconde fois, qui sera diffusée sur Arte demain, mercredi à 20h55, si je ne me suis pas trompé. Ça va ?
Le 29.
C'est le 29, donc pas demain, le mercredi prochain.
Le jeudi 29.
Oh bon, j'y arriverai plus, tant pis, je vais aller boire un café. Et là, nous planons dans les hautes sphères avec cette série. J'aimerais bien qu'on écoute la bande-annonce d'Il était une seconde fois.
Un cube magique.
À chaque fois que je rentre dans ce cube, je retourne 9 mois en arrière.
Un amour perdu.
Et je te retrouve alors qu'on est séparés depuis 4 mois.
Oui.
Et une idée fixe.
Je vais te récupérer.
Alors c'est quand même une histoire tout à fait étonnante. Hein. C'est donc peu après une rupture qu'il a plongé dans la dépression, donc Gaspard Ulliel reçoit par erreur une caisse qui lui permet de remonter le temps. C'est totalement surréaliste votre histoire.
Et pourtant, C'est possible.
Et pourtant, c'est possible. Ouais. Il faut le voir rentrer dans la caisse, quand même, s'il y a un côté comique et dérisoire, évidemment, comme toujours dans votre cinéma, où il y a toujours une forme d'humour sous-jacent qui est présente là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi il veut remonter le temps à toute force?
C'est un petit peu le grand principe romanesque. C'est le traitement des amours impossibles, des amours contrariés. Que se passera-t-il si un personnage, si un homme a la possibilité, à un moment donné de sa vie, de remonter le temps pour essayer de modifier le passé et de renouer avec l'amour de sa vie?
Et d'effacer les erreurs et de ne pas les commettre.
Oui, et puis d'essayer de modifier son destin et l'effet dramatique que tout cela a produit.
En plus, dans votre série, le héros tente en plus de sauver vraiment l'héroïne qui est en danger de mort.
Oui, oui. Mais voilà, c'est essayer de s'inscrire dans un genre qui est celui du drame romanesque où le traitement amoureux devient l'enjeu principal d'une histoire. Et de quelle façon un personnage va tout faire pour sauver son amour.
Et ça donne un résultat totalement sidérant avec des musiques absolument géniales. Ce qui est intéressant, Guillaume Niclou, c'est que dans votre série, le héros tente de sauver l'héroïne. Et dans votre livre, Bruno de Cessol, l'héroïne, qui se nomme Déborah, tente de sauver le héros. Et tout ça s'achève sur une île écossaise. C'est ça qui est très surréaliste, parce qu'on est au Moyen-Orient avec Daesh. Et ça se termine sur l'île de Jura.
Oui.
C'est beau, Jura?
Écoutez, c'est une île que j'ai découverte à l'occasion d'un reportage il y a quelques années. J'ai été étonné par la... C'est une toute petite île qui se trouve au large de Glasgow, qui fait partie des Hébrides intérieures. Et c'est une île déserte, quasiment déserte. Il y a 200 habitants et à peu près 5 ou 6 000 cervidés. Il y a trois montagnes qu'on appelle les Paps qui dominent la mer d'Irlande et le détroit qui le sépare de l'Écosse. Et c'est une île où j'ai découvert, en étant sur place, Orwell s'y était réfugié en 1947 pour écrire 1984. Il venait d'écrire La ferme des animaux, qui a eu un succès énorme. Il était sollicité par la presse en permanence. Il était déjà malade de la tuberculose. Il avait besoin d'un endroit totalement isolé du monde pour se retirer et écrire 84. Et il a trouvé cette île, Jura, où il a vécu pendant un an et demi à deux ans. Et il a écrit, en proie à la maladie qui allait l'emporter, il a écrit fiévreusement 1984 dans une espèce de petite, d'une ferme totalement isolée au bout d'un chemin de terre aux confins de cette île, dans une solitude et une sauvagerie absolument grandiose. Voilà. Et cette île m'a beaucoup impressionné. Je me suis dit que j'allais en faire le cadre d'un roman, sans savoir à l'époque ce que ça allait être. Mais l'esprit des lieux a été tellement puissant que je me dis, tiens, je vais situer un roman
la scène finale de votre roman se déroule sur l'île de Jura. Alors ça tombe très bien, parce que je vous ai demandé le son qui vous résumait, Bruno de Cessol, et vous avez dit le son qui me résume. Moi, je trouve que ça m'évoque l'île de Jura, c'est ça. On aimerait être au coin du feu avec vous sur l'île de Jura pour boire peut-être un whisky Jura.
Bien sûr, oui.
Pour évidemment, pas tout le monde, bien sûr. Le feu qui crépite, c'était ça votre choix. Alors, Guillaume Niclou, le son qui vous résume, ça n'a rien à voir. J'étais très impressionné. C'est une parole de Michel Foucault, extraite de l'émission Radioscopie sur France Inter, le 10 mars 1975.
Vous êtes favorable à l'enseignement?
L'enseignement, non.
Vous êtes un enseignant?
Un minimum d'enseignant. Vous savez, j'enseigne dans un endroit, enfin je fais des cours dans un endroit qui a pour fonction justement de ne pas enseigner.
Et quel collège de France?
Oui, et ce qui me plaît justement là-bas, c'est que je n'ai pas l'impression d'enseigner, c'est-à-dire d'exercer par rapport à mon auditoire un rapport de pouvoir. L'enseignant, c'est celui qui dit, écoutez, voilà, il y a un certain nombre de choses que vous ne savez pas, mais que vous devriez savoir. Deuxièmement, ces choses que vous devez savoir, moi je les sais et je vais vous les apprendre. Et puis, quand je vous les aurai enseignés, il faudra que vous les sachiez, je vérifierai si vous les savez.
Alors, pourquoi, Guillaume Niclou, cette phrase ou ces phrases de Michel Foucault?
Et la suite est très très, très belle également. Ah bon, ça vaut le coup de se pencher sur la suite. Hein.
Certes.
Évidemment, on ne va pas la passer
en entier, ce serait un petit peu long.
Voilà. Non, mais je trouve ça très simple, très beau et très actuel en même temps. Qu'un professeur, qu'un philosophe, qu'un écrivain, essayiste puisse... à cet âge, à cette maturité, livrer ce type de témoignage sans l'embroussailler de terminologie compliquée, de dire simplement qu'un professeur, c'est quelqu'un aussi qui désapprend et qui reçoit sa qualité d'enseignant en retour de ce que l'élève entend et de ce que l'élève juge, je trouve que c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que il y a quelque chose de très humble dans la façon dont il en parle et il y a une sincérité flagrante qui nous renvoie à quelque chose de très pur aussi.
C'est une chanson pour vous, Bruno de Cessol, qu'on va écouter maintenant, puisque vous évoquez dans votre livre les rivages, donc de l'île écossaise Jura. Beau rivage, donc, c'est le titre et c'est Dominique A.
Nous échouerons à beau rivage, aurons perdu beaucoup de temps. Égaré dans des paysages qui ne nous allaient pas vraiment, auront goûté en solitaire aux saveurs de tant de saisons, sans l'avoir prévu par temps clair. Sur beau rivage, nous échouerons, avant qu'on voit tes mondes meilleurs. À force de marche entravée, dans le vin déroulé des heures, avons révoqué la douceur sur des chemins de roses enfouies. Bientôt ne resterait d'ailleurs qu'ici. Nous échouerons à beau rivage, l'endroit parfait qui nous attend. Par d'autres lieux pris en otage, auront connu en solitaire les teintes de tant d'horizons, sans l'avoir prévu par temps clair. Sur beau rivage, nous échouerons. Nous sommes heurtés à des barrages, à des croix tout juste dressées. À travers l'un des marécages, sans chemin avons repoussé, essuyant des larmes d'orage, au fond de vallées dépeuplées. Nous échouerons à beau rivage, l'endroit parfait qui nous attend, par-delà l'an.
Dominica, beau rivage, une programmation à la fois iodée et tourbée de Thierry Dupin.
Vous avez dit que j'allais...
Vous avez dit
que... Mais vous m'avez rien dit.
Parce que c'est faux.
C'est vrai. Bah évidemment que c'est vrai.
Pour moi, Ben Laden a été en fait un formidable prétexte, un alibi pour à la fois les Américains et les Occidentaux afin de compenser la perte de l'ennemi emblématique qui avait été le leur au moment de la guerre froide, c'est-à-dire la Russie soviétique.
Vous pensez vraiment ça, Bruno de Cessol? Vous pensez vraiment, comme vous l'avez écrit dans Jeune Afrique, qu'Oussama Ben Laden a été l'idiot utile des États-Unis et de l'Occident en souffrance d'une croisade depuis l'effondrement de l'Empire soviétique?
C'est ce que je pensais à l'époque. J'avais écrit un livre, effectivement, sur le sujet, sur Ben Laden, le bouc émissaire idéal. Et en fait, je trouvais que...
Vous êtes un peu comme François Saint-Réal en disant ça, comme votre personnage.
Un peu, exactement. Je me référais en fait à Plutarque, qui estime que on a toujours besoin d'un ennemi et qu'il faut toujours conserver cet ennemi. Et je pense que pour les États-Unis, qui avaient besoin, après la chute de l'Union soviétique, d'un ennemi emblématique, Ben Laden a été effectivement cet ennemi utile qu'il fallait non pas éliminer, mais conserver le plus possible, ne serait-ce que pour garder soi-même sa propre force, sa propre puissance.
Guillaume Niclou, en 2011, pour Canal+, vous avez réalisé donc cette fiction, ce docu-fiction nommé l'affaire Gorgi, avec donc Michel Houellebecq qui jouait le patron de la DST. Je rappelle que dans les années 80, Waïd Gorgi était un diplomate iranien suspecté de terrorisme. Donc c'est un sujet aussi qui vous tient un petit peu à cœur, ça, non?
Non, ce sont des rencontres et des propositions. Il a été très rare pour moi de recevoir un scénario quasiment fini, écrit. Et la proposition était assez incongrue et en même temps très excitante parce que jamais je n'aurais décidé moi-même de m'intéresser à ce sujet. Je ne me souvenais pas très bien de l'événement. La cohabitation Mitterrand-Chirac ne m'avait pas véritablement intéressé à l'époque. Donc du coup, je trouve que mon regard très naïf et un peu candide à ce moment-là m'a beaucoup excité en fait de découvrir les événements et de le traiter de cette façon. C'était quelque chose d'assez stimulant en fait de m'extraire à un moment donné de mes préoccupations de cinéaste et de mes sujets de prédilection et de se voir un peu bousculé.
Et de faire une docu-fiction un peu politique.
Oui, oui.
Et alors, dans le même esprit, dites-moi si c'est vrai, j'ai lu que vous alliez peut-être adapter en série le roman Soumission de Michel Houellebecq. C'est vrai?
Non, pour l'instant, il y a une éventualité d'adaptation de Soumission, mais qui ne serait plus en série. Mais c'est plus d'actualité pour l'instant. Le projet reste en suspens.
En tout cas, dans Il était une seconde fois, un mari cocu dit « À la vitesse où vont les choses, on aura pardonné à Daesh dans moins d'une décennie ».
Oui.
Vous vous souvenez?
Oui, bien sûr.
C'est exprès, je crois que vous avez mis ça dans la bouche de votre mari cocu.
J'ai l'impression que ça peut aller encore plus vite aujourd'hui, d'ailleurs. Qui est une espèce d'accélération.
Mais vous êtes assez provocateur, Guillaume Niclou. Je vous cite, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Hein. Peut-être que c'est une fausse citation. La guerre est une horreur absolue et en même temps extrêmement stimulante.
Oui, mais là, pourquoi? Je parle de la guerre des idées parce qu'encore une fois, comme on disait tout à l'heure, c'est le débat qui prédomine, c'est le débat qui est vivant, qui rend la parole libre et vivante. C'est l'opposition d'idées. Donc s'affronter sur le théâtre des échanges verbaux, je trouve que c'est très stimulant parce que c'est le meilleur moyen pour nous de réfléchir, de réagir et d'agir.
Guillaume Niclou, vous dites aussi la notion de danger est essentielle à ma manière de faire du cinéma. Vous voulez vous mettre en danger ?
Oui, le plus souvent, c'est l'excitation, c'est le danger, c'est l'insécurité, c'est être déplacé de notre endroit qui sécurise, c'est avoir la contrainte parce que c'est finalement dans l'élaboration et dans la recherche de liberté à l'intérieur de la contrainte que je trouve qu'on s'épanouit le plus pleinement. Mais encore une fois, ça m'est propre. C'est de cette façon-là que j'ai l'impression de me sentir par moment le plus juste possible avec mon désir. Et c'est vrai que le désir, c'est quand même ce qui nous fait avancer. Et c'est ce qui nous rend finalement le plus intéressant pour nous-mêmes. C'est de quelle façon on arrive à apprivoiser notre désir et se faire confiance pour découvrir qui on est, ce qu'on est et vers qui on va.
Bruno de Cessol, votre personnage dans L'île du dernier homme est un journaliste qui refuse tout manichéisme, qui s'interroge sur finalement peut-être le fait que l'Occident est coupable de la montée du djihadisme, qu'il a abandonné les jeunes des banlieues. Vous êtes d'accord avec votre personnage? C'est vous, François Saint-Réal, en deux mots?
Madame Bovary n'est pas moi. Bon. Y a une partie de... Mon personnage, effectivement, reflète une partie de moi-même, une partie de mes convictions, je dirais peut-être pour un tiers. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de me mettre à la place de l'autre, surtout quand l'autre est le plus opposé à soi. Et donc, c'est ce que mon personnage, d'ailleurs, éprouve lui-même. Je pense que c'est... Il veut se mettre, effectivement, en danger lui-même. Et là, ça reflète ma propre conception de la littérature qui est celle de Michel Léry, c'est-à-dire la littérature comme une tauromachie. C'est-à-dire qu'on doit frôler le plus possible la corne du taureau, c'est-à-dire remettre en question ses propres convictions, ses propres certitudes, ses propres préjugés.
Tu veux que je te raconte un souvenir ?
Un souvenir, oh oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Écoutez, c'est très profond ce matin. Je vous remercie infiniment l'un et l'autre, mais je vous rappelle que nous sommes dans Estivalitude et donc nous allons parler un peu de souvenirs de vacances. Alors, je dois dire que je vous ai demandé à chacun quel était votre plus incroyable souvenir de vacances. Guillaume Niclou, votre souvenir de vacances est juste inouï. Est-ce que vous pourriez nous le raconter ? Ça se passe dans un canyon de la vallée de la mort aux États-Unis.
Oui, alors là, ça prend une couleur très, très comme ça, distrayante, joviale. Mais je le raconte de façon très libérée.
Racontez-moi, parce que c'est pas si jovial que ça.
Non, mais parce que c'est estival, vous venez de le dire. Donc, il s'agit pas de plomber non plus l'émission.
Non, soyez gentil.
Voilà. Donc, c'est juste un événement qui a finalement donné naissance à un film. Et que je me suis retrouvé dans un canyon sous 60 degrés de chaleur aux États-Unis, dans la vallée de la mort. Et j'ai marché dans un canyon, et à un moment donné, je me suis retrouvé face à mon père.
Qui était mort 3 ans avant.
Voilà. Donc, évidemment, ça crée un choc.
Oh, mais ça, j'imagine.
Ça crée un choc parce que vous n'êtes pas préparé à ce type d'événement.
Bah, c'est sûr.
Pas non plus, j'étais pas versé vers l'ésotérisme ou une sorte de mysticisme absolu, ni dans la religion, ni dans quoi que ce soit. Et que physiquement, il était là. Et que je sais que ce que j'ai vu est réel, mais je sais aussi que mon cerveau a la faculté de fabriquer des images, d'entendre des sons qui ne correspondent pas forcément à la réalité que nous vivons, mais que ça nous conforte dans l'idée que l'esprit est plus fort que ce qu'on croit et qu'on est nous-mêmes aussi capables d'inventer des images et de nous faire croire à des choses qui ne sont pas matériellement réel.
De toute façon, nous ne savons pas.
Voilà.
Bruno de Cessol, vous, votre souvenir de vacances, c'est l'été de vos 19 ans en Grèce.
Oui, j'étais parti en Grèce sur le... Voilà, parce que je voulais... J'avais en tête le Henry Miller, le Colosse de Maroussi, j'avais en tête également Laurence Durel, que j'avais lu peu auparavant, son séjour à Corfou, et j'ai voulu aller partir en Grèce un peu à l'aventure, donc en dormant à la Belle Étoile, sur les ponts des bateaux, sur les toits des chapelles désaffectées, et je me suis laissé enfermer dans l'île de Délos, qui est en face de Mykonos, et qui contient donc des ruines grecques qui sont magnifiques. Et j'ai passé, en général, les touristes ne restent que très peu de temps, ils rembarquent au bout de quelques heures, et je me suis laissé enfermer dans cette île pour passer la nuit dans une île déserte, enfin une île où il y avait des ruines, où il n'y avait pas un seul habitant, repartir le lendemain. Voilà. Et j'ai erré dans les ruines grecques pendant une partie de la nuit, en m'imaginant que je me retrouvais effectivement à l'époque antique.
Il y a une certaine connivence entre vous deux, je trouve. Hein. L'un et l'autre, vous êtes allés dans un endroit désert, et l'un et l'autre, vous alliez à la recherche de quelque chose. Vous avez rencontré cette figure paternelle, et puis vous avez plongé dans un passé mythique. Eh bien écoutez, merci beaucoup Guillaume Niclou et Bruno de Cessol. Vous avez tous deux fait preuve, je veux dire, d'une très puissante estivalitude. Guillaume Niclou, votre film Thalasso sort donc demain mercredi 21 août et votre série Il était une seconde fois, là je vais essayer de pas me tromper, est diffusée sur Arte le 29 août à 20h55. Elle est par ailleurs disponible sur Arte TV jusqu'au 26 octobre. Bruno de Cessol, votre roman L'île du dernier homme, qui paraît demain mercredi 21 août, est édité par Albin Michel. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. C'est heureusement Juliette Medevielle qui réalise Estivalitude. L'émission a été préparée en outre par Saad Merzak et Pierre Goulencourt, avec à la technique aujourd'hui Gilles Gaillard. Notre boutique éphémère réouvre bien sûr dès demain 9h sur France Inter. Je recevrai une romancière, Laurence Nobécourt, et un cinéaste, Cédric Kahn. Ah, Laurent Delmas, vous êtes venu, alors expliquez-nous pourquoi cette passion pour le cannabis.
Et parce que je vous écoute toujours et je vous écouterai jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, c'est vous qui me l'avez transmise.
C'est trop aimable.
À Ciné qui chante ce matin, puisque vous ne me le demandez pas, je reçois Olivier Ducastel et Jacques Martineau.
Ah ben on connaît.
Deux cinéastes émérites, bien évidemment, qui sortent eux aussi demain un film. Avec eux, on écoutera Jeanne Moreau, Marlène Dietrich, Bourville, Nina Hagen, Arletty, Jimmy Somerville et Patachou.
Génial, génial. Merci. Ça promet. Je suis ravi pour vous.